BW. Droits et libertés.
Alexeï Navalny, ce nom est désormais célèbre au-delà des frontières de la Russie. Nous nous intéressons à lui cette semaine, à son parcours, à l'adhésion qu'il suscite et au danger potentiel qu'il représente peut-être avec ses partisans pour le régime que l'on croyait d'acier, celui de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous.
Avec l'empoisonnement de Navalny, je me suis rendu compte qu'il fallait agir. Ça ne peut plus continuer comme ça.
Comme beaucoup de ses concitoyens, Adam, 26 ans, est électrisé par le personnage d'Alexeï Navalny depuis son retour au pays à la mi-janvier. Alexeï Navalny avait passé plusieurs mois en Allemagne où il a été soigné suite à une tentative d'empoisonnement. Un empoisonnement dont les autorités allemandes attribuent la responsabilité au Kremlin. Alors Adam est allé manifester, malgré les dangers, le 23 janvier dernier. Ce qui a aussi contribué à galvaniser une partie des Russes, c'est une vidéo postée après l'arrestation d'Alexeï Navalny par ses partisans sur le web. Une vidéo dans laquelle l'opposant présente une villa démesurée sur les bords de la mer Noire comme étant celle de Vladimir Poutine. Le président s'est senti obligé de démentir ces accusations de la Fondation contre la corruption d'Alexeï Navalny, mais il n'a pas répondu sur le fond de la corruption qui mine le système russe. Et la vidéo postée par le camp Navalny a été cliquée plus de 100 millions de fois sur YouTube. Alexeï Navalny et son équipe maîtrisent les moyens de communication modernes, les plateformes et les réseaux sociaux sur Internet, le langage des jeunes aussi et même l'ironie. Alexeï Navalny s'est d'ailleurs fait connaître d'abord comme un blogueur et lanceur d'alerte. Il dénonçait déjà des faits de corruption. Il a été membre du parti libéral Yabloko, dont il a été exclu ensuite suite à des accointances avec les nationalistes xénophobes. Depuis, Alexeï Navalny a renoncé à cette rhétorique. Son plus grand succès politique est sans doute d'avoir obtenu près d'un tiers des voix aux élections municipales de Moscou, c'était en 2013. Mais depuis, les autorités lui ont coupé l'herbe sous le pied pour faire de la politique par des voies légales, puisque Alexeï Navalny a été empêché de créer un nouveau parti. Et à cause des accusations de corruption qui pèsent sur lui, il n'a plus le droit non plus pour l'instant de se présenter aux élections. Sa candidature à la présidentielle de 2018 avait d'ailleurs été refusée. Le sociologue Léon Goudkov mène des études d'opinion en Russie. Il doute de l'effet lame de fond du mouvement de protestation.
Les avis sur Navalny sont partagés. Tout dépend de l'âge des gens et des médias par lesquels ils s'informent. La jeunesse est sur les réseaux sociaux. Elle réagit plus fort et avec plus de compassion à une nouvelle comme une tentative d'assassinat politique. Près de 40% des jeunes russes croient qu'il y a eu tentative d'assassinat. Mais les personnes plus âgées en province regardent la télévision d'État et elles ne sont que 5% dans cette catégorie à croire à la théorie de l'assassinat manqué. Dans leur milieu, la propagande du Kremlin fonctionne. L'empoisonnement de Navalny est contesté, voire même interprété, comme une provocation des services secrets occidentaux.
Un sondage mené en novembre 2020 par le centre Levada, donc 3 mois après l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, le créditait de 2% environ d'intention de vote seulement s'il se présentait à la présidentielle. Explication de Gerhard Mangott, il est spécialiste de la Russie à l'université d'Innsbruck, c'est en Autriche.
Tous ceux qui sont descendus manifester en soutien de Navalny ne voteraient pas pour lui à la présidentielle. Ce sont surtout des citoyens russes en grand nombre qui en ont assez de la récession économique, du manque d'allant dans la société, de l'effondrement du pouvoir d'achat et puis de la corruption, que ce soit au sein des institutions ou au quotidien.
Et tout de suite, pour pousser un petit peu plus loin la réflexion, nous retrouvons Françoise Dossé. Elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste des relations entre l'État et la société dans la Russie post-soviétique. Françoise Dossé, qui dirige également le CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle.
Oui, bonjour.
Françoise Dossé, Alexei Navalny a de nouveau appelé à une mobilisation devant le quartier général du FSB. Qui sont ces Russes qui sont prêts à braver la répression, la violence des forces de l'ordre pour soutenir Alexei Navalny ?
Ce sont des manifestations non autorisées. Alors, ceux qui protestent sont très divers, puisque Alexei Navalny lui-même a fréquenté différents cercles politiques, allant des libéraux au mouvement plus nationaliste et aussi chez les jeunes aujourd'hui au mouvement libertarien. Donc au fond, une base de sympathisants qui est très diverse, qui est aussi active dans la province russe. Au fond, ce qu'a réussi tout de même Alexei Navalny et son équipe, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est de mobiliser aussi des gens dans les provinces en créant en fait un réseau militant dans ces villes des régions russes, réseau militant qu'il a construit déjà depuis plusieurs années.
Alors, est-ce que le fait qu'il n'ait pas de parti déjà constitué derrière lui, ça le sert ça lui permet de proposer une alternative ou en tout cas de rassembler des gens plus largement?
Le fait effectivement de ne pas avoir d'idéologie politique claire, au sens où on l'entend habituellement, c'est aussi ce qui lui permet de rassembler dans des cercles très divers. Et en fait, ce qui fait l'unité de son propos, c'est de dénoncer la corruption des élites en Russie. Et au fond, il parvient à unir ces différents courants en insistant sur cette commune opposition à la corruption dans le pays. Les autorités russes, le ministère de la Justice, a constamment refusé d'enregistrer sa formation politique, ce qui est un obstacle institutionnel énorme, puisque le mouvement ne peut pas se présenter aux élections, ce qui a conduit en fait Alexei Navalny à choisir une autre stratégie, qui est celle dite du vote intelligent, qui consiste à appeler ses partisans en fait à voter pour tout candidat d'opposition le mieux placé, quel qu'il soit, quelle que soit son appartenance politique, pour contrecarrer l'élection d'un représentant du parti du pouvoir Russie Unie.
Ce que vous dites de ces consignes de vote à ces militants, ça donne un peu l'impression que non seulement il n'a pas de parti, mais il n'a pas vraiment d'idéologie alors.
Il opère en fait une forme de synthèse idéologique qui effectivement est assez contradictoire, hein, et au fond il parvient à unir ces différents courants en insistant sur cette commune opposition à la corruption dans le pays.
Mais les Russes ont déjà prouvé dans l'histoire qu'il n'était pas besoin d'être majoritaire pour provoquer des révolutions. Mais quelle est la société qu'Alexei Navalny appelle de ses voeux ou propose à ses militants s'il parvenait à renverser le poutinisme?
Oui. Alors, pour rebondir sur votre première remarque, effectivement, la société russe n'a pas besoin d'être majoritaire pour parfois faire la révolution. Ce qui est assez frappant, en fait, dans les manifestations qu'on observe actuellement, c'est le caractère très pacifique au fond des manifestations. Donc, on est très loin quand même d'une prise d'armes, par exemple, hein. Et de fait, Alexei Navalny s'adresse plutôt à des partisans issus des classes éduqués et des classes urbaines en Russie, donc à la fois dans les capitales et dans les grandes villes du pays, en leur proposant au fond un modèle de développement assez inspiré des modèles occidentaux, je dirais, en termes de liberté économique, de redistribution sociale, mais relativement minimale. On voit bien que son programme n'est pas centré sur la question des classes les plus populaires et de la redistribution sociale. Et avec aussi une inflexion, effectivement, nationaliste.
Et est-ce qu'Alexei Navalny pourrait être celui qui fait tomber Vladimir Poutine? Est-ce que c'est quelque chose de probable, de réaliste? On a vu le mouvement des Pussy Riot qui a un peu disparu. Les deux grands opposants qui étaient célèbres à l'étranger, Mikhail Khodorkovsky et Garry Kasparov, par exemple, ont été contraints à l'exil. Est-ce que Vladimir Poutine peut être ébranlé par Alexei Navalny?
Ces militants d'opposition qui ont été soit contraints à l'exil, soit contraints de se taire, voire pour certains d'entre eux éliminé physiquement, hein, on se souvient de l'assassinat de Boris Nemtsov, témoigne de la difficulté en fait du combat politique en Russie, de la difficulté à ébranler en fait le pouvoir actuel. Donc Alexeï Navalny est dans une situation extrêmement à la fois forte d'un point de vue médiatique, mais une situation aussi extrêmement fragile politiquement. Et puis il faut rappeler qu'Alexeï Navalny n'est pas le seul prisonnier politique en Russie. Hein. L'association Mémorial qui fait le compte de ces prisonniers politiques en compte plusieurs centaines. Donc c'est pour dire que la répression est très rude. L'autre aspect, c'est que le combat politique aussi en Russie est rendu très difficile par l'impossibilité en fait d'avoir un dialogue contradictoire avec les autorités russes. Les autorités russes actuelles sont très habiles en fait dans le maniement de contre-discours, de demi-vérités, dans le fait aussi de ne pas nommer leurs opposants. Donc on voit combien il est difficile hein, de mener le combat dans ce type de contexte. Le pouvoir politique russe, depuis de nombreuses années, essaye de domestiquer, si on veut, son opposition en tolérant une opposition modérée. Hein. À la Douma, quelques partis sont représentés, comme le Parti communiste de la Fédération de Russie ou le Parti national démocrate de Vladimir Jirinovski, mais ce sont des partis, au fond, qui s'accommodent du cours politique des autorités russes. Alexeï Navalny ne rentre pas du tout dans ce jeu de parti domestiqué, et réduire l'opposition politique à Alexeï Navalny, c'est un peu servir aussi le propos du pouvoir politique russe qui essaye de réduire cette opposition à un seul homme, au fond en négligeant aussi tout le mécontentement qui existe dans la société russe à des niveaux très locaux, sur des questions de vie quotidienne, sur des questions liées à leur environnement proche, mais qui participent de cet esprit protestataire qui se développe en Russie, au sein de la société russe.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Roman Goshenrenko pour les sons et à Françoise Dossé, directrice du CERSEC à Paris. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet tw.com/français dans la rubrique « Nos podcasts ». Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.